Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fauteuil. Nous sommes en direct pour la deuxième semaine de la dixième, pardon, pas la deuxième, dixième semaine de NFL. Bienvenue à tous dans une nouvelle édition du Fauteuil. Vous avez l'habitude de votre rendez-vous du dimanche, votre rendez-vous d'avant-match. Nous allons parler évidemment de ce qui va se passer cette semaine, mais vous avez l'habitude aussi, il y a un thème. Et le thème de cette semaine, ce sont les plus gros busts de l'histoire de la NFL. L'émission du dimanche, le Fauteuil, qui vous est présenté bien évidemment par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. Évidemment, on parlera des meilleures cotes de la semaine juste en fin d'émission, et n'hésitez pas aussi à vous inscrire et à créditer votre compte pour pouvoir regarder les matchs en direct chez Unibet. Évidemment, ça coûte vraiment pas cher du coup de regarder les matchs en streaming, et vous avez accès aux matchs en intégralité et en plein écran sur les tablettes et mobiles. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, et on les remercie évidemment de soutenir l'émission. Le chat, bienvenue à Martial, à Chris. Je fais mon petit ajustement de taille de fenêtre habituelle. Martial, Chris, Bibop Noon, Sébastien, Baptiste, Coro Couples, Grumpy, Bertrand, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Content de vous voir. On est désormais au cœur de l'hiver. Il fait frais, il fait nuit. On est donc content de vous voir pour casser un petit peu la monotonie du dimanche. Le maillot de... Alors, qui a mis le maillot de Moss? C'est un hommage à la réception de son fils. Alors non, c'est un hommage à la victoire des Raiders ce jeudi, puisqu'on va parler de ça aussi. Gus qui dit « J'ai donné 20 euros pour Tipeee, merci beaucoup. » Gus, c'est une bonne remarque. Je mets les liens habituels dans le chat. Oups là, petite erreur de manip. Donc, hop, le lien pour Unibet, si vous voulez aller parier et qu'il sache que vous venez de chez nous, et le lien pour Tipeee, si vous voulez soutenir le site. Merci pour les tailgates, et merci de penser aux végétariens, dit Martial. Alors, c'est fort, merci Sébastien, qui est sur le chat d'ailleurs, qui s'occupe des tailgates, donc n'hésitez pas. Oui, il a plein de bonnes recettes, et il pense aux gens qui mangent pas de viande, donc comme ça, tout est magnifique. Bonjour à Thomas aussi, qui dit qu'il écoutait il y a très longtemps, dans une autre vie. Le gage pour les paris, c'est une bonne question. Gilmo, bienvenue aussi. Bonjour à Bonito. C'est toi Bonito qui a fait la proposition de thème, merci beaucoup de le préciser, parce que j'avais un trou sur qui avait demandé, je ne retrouvais plus le tweet. Donc merci à Bonito qui a suggéré le thème du jour, c'est-à-dire les plus gros busts de l'histoire de la NFL. Oui, bah voilà, c'est bien, il y a plein de merci pour les tailgates, comme ça Sébastien peut voir le fruit de son travail en direct. Nouveau fromage ce soir. Alors il y a un petit problème à ce niveau-là, mais j'en parlerai à la fin de l'émission. Je vous promets que je vais redevenir plus sérieux sur les fromages, parce que ça fait 2-3 semaines que j'esquive un peu. Je vous promets que je vais redevenir un peu plus sérieux, mais cette semaine, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous dirai ça. Mais il y a toujours les tailgates de Sébastien pour se consoler, ne vous inquiétez pas. Avant de passer à tout le menu, nous allons évidemment commencer avec le joueur mystère. Le joueur mystère, c'est très simple, je vous donne des indices, vous envoyez la réponse à concours@touchdownactu.com. Si vous nous regardez en direct ou sur YouTube, vous avez le lien, ou en tout cas l'email, dans le chat. Je vous donne donc des indices début et fin d'émission, et vous envoyez un mail à cette adresse-là, et seulement à cette adresse-là. On ne prend pas les réponses sur Facebook, on ne prend pas les réponses sur Twitter, c'est que à cette adresse-là pour valider officiellement les participations. Donc je vous donne les indices, et le premier qui trouve a gagné les free bets mis en jeu. On avait 50 euros de free bets en jeu la semaine dernière, personne n'a trouvé, on passe donc à 100 euros de free bets en jeu. Le premier indice, c'était californien du début à la fin. Au début et à la, oui, au début et à la fin, pardon, californien au début et à la fin. Indice 2, 24. Et indice 3, des bas-fonds au titre de champion. Je vous laisse méditer là-dessus. J'ai les emails pas loin de moi, donc je checkerai de temps en temps pour voir si quelqu'un a trouvé en direct. Californien au début et à la fin, 24, des bas-fonds au titre de champion. Voilà pour les trois indices. On commence avec vos questions, si vous en avez, et sinon, moi, je commence doucement le débrief du match du jeudi. Le match du jeudi qui opposait donc les Raiders, c'est pour ça qu'il y a le maillot derrière moi, aux Chargers. Les Raiders 26, les Chargers 24. Les deux équipes qui confirment honnêtement ce qu'on pensait d'eux, c'est-à-dire des Raiders terriblement sérieux, des Chargers terriblement irréguliers. Trois ballons perdus pour Los Angeles, donc les Chargers, je te précise, parce que les Raiders ont joué à Los Angeles aussi pour les plus anciens. Donc, trois ballons perdus pour les Chargers, aucun ballon perdu pour les Raiders. Trois interceptions pour Rivers, qui est quand même une roulette russe. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, ça continue quand même à ce niveau-là. Honnêtement, voilà, ça continue à être très incertain. Il y a toujours eu des hauts et des bas avec Philippe Rivers. Je vais retroller un peu. J'avais dit c'est le James Winston du riche il y a quelques semaines et on m'était un peu tombé dessus. C'est le Jay Cutler du riche. On peut dire ça comme ça. Mais voilà, ça reste la roulette russe. C'est-à-dire que Olivier Di Rivers n'est-il pas surcoté? Oui, un peu, à mon sens, oui. Parce qu'il est capable de perdre un match de temps en temps, comme ça. Et quand je dis de temps en temps, c'est plusieurs fois par an. Donc à partir de là, bah oui, c'est quand même compliqué de prétendre à ce qu'on veut prétendre quand on est parfois pour Philippe Rivers, le Hall of Fame, le machin, etc. Dans les faits, bah, il a eu une ou deux belles campagnes de playoffs. Et puis bah, il a quand même souvent été à la tête d'une équipe irrégulière qui perd des matchs, qui vendange des matchs, qui perd des matchs dans des fins de rencontres qu'ils ne doivent pas perdre. Donc voilà, c'est bien là le problème. Il a eu des saisons avec beaucoup d'interceptions. Donc non, c'est la preuve, encore une fois, que les Chargers restent cette équipe encore et toujours. Mais plutôt que de parler de ça, et plutôt que de parler du... Non, Thierry Sultan, non, tu ne peux pas dire ça. Alors, il y a Thierry dans les commentaires qui dit c'est le Tracy McGrady de la NFL. Respectez Tracy McGrady, qui était quand même, à son meilleur, un des top 3-5 joueurs NBA. Hein, je ne vais pas m'étendre basket, parce que tout le monde parle pas basket ici. Mais Tracy McGrady était, en termes de talent et de jeu, il a été meilleur scoreur à NBA. C'était un des top talents de la NBA. Philippe Rivers n'a jamais été top 5 NFL. Il a jamais été dans le top 5 NFL. Je suis désolé. Donc on peut dire ce qu'on veut. Il a été régulier, il a été bon, il a été parfois très bon, mais il a jamais été top 5 NFL. Il a jamais été un des top quarterbacks de cette ligue. Donc non, on ne peut pas dire ça. J'aime trop Tracy McGrady pour qu'on dise ça. Là, vous avez touché un point sensible. Il y a Steve Langlais qui dit, je vais regarder le Merdico de New York. Suis-je fou? C'est un choix, quoi. C'est un choix. Oui, alors Tracy McGrady a passé un tour de playoff, oui, mais bon, il est même allé en finale avec les Spurs, mais c'était pas tout à fait dans les mêmes conditions. Mais Philippe Rivers a passé un tour de playoff quand même. Voilà, bon, mais T-Mac, c'était autre chose quand même. C'était autre chose. Donc, je disais, plutôt que de parler et de me faire tomber dessus encore par les fans de Philippe Rivers, des Chargers, parlons plutôt du positif qui est cette équipe des Raiders, parce que. À l'inverse total des Chargers, les Raiders, ils auraient pu craquer. Ils mènent, ils sont rejoints, ils ont une interception décisive qui est annulée par une pénalité, ils auraient pu craquer, ils se font repasser devant, ils ne lâchent rien, ils repassent devant, ils sont à nouveau rejoints et dépassés, ils auraient pu craquer, ils ne lâchent rien, ils sortent un long drive, un touchdown, Josh Jacobs au bout, et derrière une interception décisive, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et c'est ça qu'il faut saluer, je pense, dans ce match, parce qu'on sait ce qu'on a avec les Chargers. Ça sert à rien de s'apitoyer là-dessus. Voilà. Ce qui est beau dans ce match, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que les Raiders sont sérieux, ils sont bien coachés, ils progressent. Il faut le citer, parce qu'on l'a suffisamment dit qu'il n'était pas encore au niveau. On a suffisamment dit qu'il n'était pas au niveau depuis le début de la saison pour un choix de draft si haut, mais Clelin Ferrell est à 2 sacs et demi sur ce match. Leur pass rush est à 5 sacs sur ce match. Derek Carr continue d'être propre. Josh Jacobs continue d'être la base de l'attaque. Donc voilà, c'est vraiment C'est vraiment pour moi le positif, il faut retenir ça, et c'est une belle chose de voir une équipe progresser. C'est beau de voir une équipe progresser, c'est beau de voir une équipe qui va de l'avant, qui construit quelque chose. On a suffisamment d'équipes de fond de tableau qui sont pitoyables pour justement prendre le temps de profiter de ça et de voir une équipe des Raiders qui regarde les Chargers les yeux dans les yeux en disant « Ouais, vous avez plus de talent ». Vous avez bien évidemment plus de talent. Vous avez Joey Bosa, vous avez Mark Ingram, vous avez voilà. Mais nous, on va rien lâcher. On va pas perdre de ballon. On va être sérieux et on va vous tuer au moindre truc, à la moindre erreur. Et voilà. Et c'est comme ça que ça se. Et c'est comme ça que ça se fait. Et c'est ça qu'il faut retenir de ce match. C'est pour ça qu'il y a le maillot des Raiders derrière moi. Ça fait du bien de voir cette équipe des Raiders. Josh Jacobs est incroyable. Donc franchement, alors il y a Igenu qui dit il progresse comme avec. Ah, Melvin Ingram, excusez-moi, il y a Gus qui me corrige, je confonds toujours les Ingram avec les prénoms. Melvin, Marc, ça commence pareil. Merci. Il progresse comme avec Del Rio, dit IGN. Oui, mais après, on peut pas. Toutes les équipes ont des phases, toutes les équipes ont eu des ratés. Ben, là, l'important, c'est que ça reparte. Donc, on espère que ça continue, honnêtement. Parce que franchement, c'est assez enthousiasmant de voir une équipe qui se construit. Et j'ai pas envie de parler justement d'une équipe qui fait encore et encore et encore et encore les mêmes erreurs. On l'a suffisamment dit. Donc, je préfère. Honnêtement, me concentrer sur le positif de ce match, c'est-à-dire des Raiders qui sont enthousiasmants. Et ça, c'est bien. On parle un peu de vos questions après ce match du jeudi, parce que j'ai vu pas mal de choses parler. Alors, on a l'habitude un petit peu de débriefer aussi avec lui le dimanche. Il y a Marco Verratti. Alors, bonjour Marco. Je parle très mal italien, j'aurais bien dit quelques mots d'italien, mais ça va être honnêtement assez offensant. Donc, Marco Verratti, salut Alain, gros match de ma part hier. Je ne sais pas si tu as vu, alors désolé Marco, j'étais pas à portée de télévision qui diffusait un match du PSG hier, mais. Écoute, tant mieux, j'ai entendu dire que ça se passait bien. Alors, Rivers a été top 5 de la draft. Gruden, coach valable, tout compte fait, question de Degan. Bon, il a quand même gagné un Super Bowl, hein, c'est pas un peintre totalement. Ce qu'on a beaucoup remis en cause, et ce qui était légitime à mon sens, attention, il n'y a pas question de retourner sa veste, c'était la gestion de l'effectif, parce que ça ressemblait à une sorte de. On vide un peu tous les talents. Moi, je pense toujours qu'ils auraient dû garder Khalil Mack. Hein. C'est pas parce qu'ils gagnent quelques matchs cette année et qu'ils se reconstruisent dans le bon sens, tant mieux. Mais ils se sont reconstruits aussi parce qu'ils ont vraiment fait des choix très violents. L'année dernière, ils avaient Khalil Mack, ils avaient Amari Cooper, ils ont fait le pari de pas les garder. Alors, apparemment, Cooper était malheureux. Pourquoi pas? Mais Mack, lui, il voulait rester. Ils lui ont pas donné l'argent. Ça reste un défenseur qui change une défense. Ça reste. Pour eux, une défense qui est en reconstruction, Clelin Ferrell fait un bon match, ça ne veut pas dire qu'il va le faire tous les dimanches encore. Donc, il y a des facteurs mitigants, ça reste un projet, mais voilà, il a l'air d'en faire de modeler ça comme il veut. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Mais ça reste un coach qui peut faire des choses, bien évidemment. Il est allé au bout une fois. Hein. Alors attendez, je remonte un petit peu. Hop. Rivers versus Winston, combien d'interceptions cumulées? Bon, on va pas revenir là-dessus. Question jouer à domicile. Alors question de Guillemot. Question jouer à domicile pour les Raiders. Fait-il la différence sur ce match où les Chargers ont-ils été vraiment mauvais? Merci. Les Chargers ont été mauvais puisqu'ils perdent 3 ballons. Évidemment, on n'a pas le droit de perdre autant de ballons en NFL quand on veut être compétitif. Et puis, je sais pas si jouer à domicile fait la différence pour les Raiders. De toute façon, quand les Chargers jouent à domicile, ils jouent pas à domicile vu que personne dans leur. Enfin, tout le monde s'en fout en fait à Los Angeles des Chargers, on va pas se mentir. Ils ont un stade de 30 000 places qui remplissent principalement avec des supporters adverses. Donc, bon, a priori. Alors, IGNU, mince alors, les Raiders gagnent plus que les Bears et sans Mac. Mais encore une fois, ça veut dire qu'ils pourraient encore gagner plus avec Mac. C'est pas à cause de Mac que les Bears perdent. Faut pas confondre, n'empêche, tout ce qui se passe. Beaucoup de flak pour les Raiders, dit Cédric. Bon, ça, c'est sûr. Après, il y a encore une fois, ça reste une équipe jeune, donc il y aura des erreurs. On l'a dit, il y a une pénalité qui leur coûte une interception qui aurait pu faire très très mal. Hop, je redescends un petit peu. J'ai vu une blague sur Dick Rivers. Elway doit-il prendre sa retraite et passer la main? Question de JP Life. Alors là, on est sur les Broncos. Disons que John Elway va y avoir quand même longtemps un mystère de savoir si c'est quand même pas Peyton Manning. Alors. Peyton Manning a été un cadeau qui lui est tombé sur les genoux et qui a sauvé sa carrière de GM, je pense, enfin de président, parce qu'il est président officiellement. Le fort de John Elway, là où John Elway était fort, c'est qu'il a su très bien entourer Manning quand il avait l'arme. Quand il avait cette arme du quarterback, il l'a très très bien entouré, ça a vraiment très très bien joué autour. Depuis, c'est très très dur. Depuis, c'est très très dur. Donc voilà, là, c'est vraiment. Pour l'instant, en effet, en dehors de l'épisode Manning, ça a l'air d'être difficile pour John Elway à la direction. Question. Alors, attends, APQM, WNZZ, c'est dur à dire ça. Pourquoi les Chargers sont partis de San Diego alors? Bon, alors ceux qui n'ont pas la vidéo et qui écouteront au podcast, je fais le signe de l'argent. Voilà, c'est l'argent, c'est les billets, c'est les dollars, c'est la monnaie. Le retour express de Patrick Mahomes n'est-il pas précipité? Question de Gus. Non, il avait l'air de courir partout la semaine dernière en tant que spectateur, donc a priori il doit pouvoir jouer. DJ Coney, est-ce que les Raiders seraient moins bons ou meilleurs avec Antonio Brown dans un état psychologique normal? Ouais, mais là on est dans la science-fiction. On est dans la science-fiction. C'est comme si on se disait ce qui serait meilleur si Randy Moss était toujours là dans son prime. Antonio Brown, c'est Antonio Brown, quoi. Donc. Voilà, la question ne se pose pas, il est parti, ils sont mieux sans lui, ils gagnent plus, donc tout va bien. Hop là, bonjour à Philippe qui est arrivé. Hop, hop, les Raiders sont en playoff l'an prochain, Dagan. Pourquoi pas? Pourquoi pas, s'ils continuent à bien drafter et à reconstruire, pourquoi pas? Qui aura le redoutable avantage de survivre le derby de la Big Apple? Question de Gus. Ouf. Bah, les Giants sont favoris parce que c'est un peu moins l'anarchie. Mais c'est compliqué, hein. Gigino del Barrio, Vegas est-elle viable pour une team NFL? Oui, puisqu'il y a plein de touristes. A priori, les offices de tourisme pourront vendre les matchs comme une attraction comme une autre. Je dis pas qu'ils auront un gros soutien local, mais il y aura du monde dans le stade. Donc a priori, j'ai pas d'inquiétude pour le remplissage du stade. Mais j'ai plus d'inquiétude pour le côté supporter. Après, j'ai pas honnêtement je connais pas du tout la ville de Vegas, donc je sais pas quel est le bassin de population. Je voudrais pas dire une bêtise. Je vais jeter un petit œil sur Wikipédia en même temps. Je vais tricher parce que je sais pas quel est le bassin de population de Vegas. Après, encore une fois, avec le nombre de touristes, je pense qu'ils vont vendre ça comme ils vendent des shows, des trucs, des Céline Dion, des machins, quoi. La densité, la population de l'aire urbaine, 2 millions d'habitants. Bon, il y a plus petit en NFL. Hein. Il y a plus petit en NFL. Donc, avec une fan base plus du tourisme, il y a GB qui fait la remarque. Les Knights s'en sortent bien en NHL aussi. C'est vrai qu'il y a une franchise NHL maintenant. J'avoue que je ne suis pas des masses. Mais voilà, donc a priori, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis ça aura un côté un peu marrant quand même. Las Vegas, c'est une ville mythique. Donc pourquoi pas? Et s'il y a une équipe qui devait aller à Vegas, à mon avis, les Raiders, c'était quand même ce qui collait le plus. Les Las Vegas Patriots, par exemple, ça aurait pas collé des masses. Je verrais bien Newton à Las Vegas, Rich LoFrancia. Oui, il y a des joueurs qui ont l'air fait pour. Hein. Il y a des joueurs, c'est un marché qui leur convient. Newton aux Chargers, mark my words, Val, ouais. Alors, les Chargers à Londres, est-ce que c'est possible à long terme? Question de Nicolas. C'est vrai que c'est cette semaine, du coup, enfin, c'est sorti depuis le dernier fauteuil, peut-être. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Oui, on en a parlé dans l'émission de mardi. Je ne sais pas si c'est viable à long terme. Le fait est que je pense pas que la NFL ait mis des billes dans le stade de Tottenham pour rien. En tout cas, ils se gardent un truc sous le coude. Parce que je le rappelle, la NFL a mis de l'argent dans le stade de Tottenham. Elle n'est pas juste là pour squatter des matchs. Ils ont mis de l'argent pour qu'il y ait une pelouse spéciale NFL. Ils ont mis de l'argent pour qu'il y ait des vestiaires spéciaux pour la NFL. À Tottenham, on a eu la chance d'y aller cette année. Les vestiaires. Alors, quand vous allez à Wembley, en fait, les joueurs NFL sont dans les vestiaires des joueurs de foot classique, soccer. C'est tout petit, il faut investir pour l'attaque, investir pour la défense, un couloir pour les relier, c'est un capharnaüm invraisemblable. Voilà. À Tottenham, il y a les vestiaires pour les joueurs de soccer et il y a des vestiaires NFL. Là encore, la NFL a mis la main au porte-monnaie. Mais il y a deux vestiaires spécialement conçus pour la NFL. Là, vous rentrez, c'est immense, il y a 53 trucs les uns autour des autres, il y a de la place, il y a un buffet au milieu, il y a ce que vous voulez. C'est un vrai vestiaire NFL. Donc, je ne pense pas que la NFL ait mis du pognon là juste pour le plaisir de dire, voilà, on met de l'argent. Donc, je ne dis pas qu'ils vont y aller, je dis qu'ils se gardent l'option sous le coude. Le stade, il est magnifique, il est pile dans la capacité qu'il faut, 66 000, c'est bien. Il est moderne, il est au standard NFL, il a une pelouse NFL, il a des vestiaires NFL. Donc voilà. Après, à voir. Si un jour il y a une équipe qui est disponible, s'il y a une équipe qui doit bouger, voilà, etc., etc. Il y a plein de conditions. Je ne pense pas honnêtement que la logistique soit si problématique que ça. Évidemment, Il y a des différences de taxes, de ce que vous voulez, etc. Mais la NBA joue bien au Canada. Le Canada, c'est pas le même pays que les États-Unis. Ben voilà, non, mais voilà. Giginho Del Barrio, faudrait-il les payer en livres ou en dollars? Les joueurs qui sont à Toronto en NBA, a priori, ils ne sont pas payés en dollars canadiens. Donc ça doit être quelque chose qui est réglable. Je vois pas, honnêtement, je vois pas honnêtement. Quel serait le pro... c'est un problème annexe, quoi. C'est un problème annexe. Rappelez-vous quand même qu'il y a des législations, des taxes et des impôts différents selon les États aux États-Unis. Donc, ils ne sont pas déjà dans une situation d'uniformité totale. Il y a des joueurs qui évitent la Californie parce qu'il y a plus de taxes. Il y en a qui vont en Floride parce qu'il y a moins de taxes. Il y a des endroits, il y a au Texas, il n'y a pas de state tax, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, et ainsi de suite. Donc, ils ne sont déjà pas dans une situation d'uniformité financière sur toutes les franchises NFL. Donc voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout un problème quoi. Bertrand qui dit Tottenham, c'est une trop grosse équipe historique. J'ai du mal à les imaginer partager leur stade à plein temps. Et même signe que tout à l'heure, l'argent. Tottenham, ils sont pas là, c'est pas une œuvre de charité non plus. Je sais, c'est des équipes historiques. C'est pas des œuvres de charité. Arsenal, ils ont quitté Highbury parce que le stade, il fait du pognon. Old Trafford, Manchester, il est visité par les touristes, ça fait du pognon. Il n'y a plus de supporters. Manchester City, ils ont changé de stade parce que ça fait du pognon. Et donc, c'est pas des œuvres de charité. Il y a le fair play financier, il y a machin. S'ils trouvent des moyens de rentrer de l'argent, ils le rentreront. Honnêtement, c'est vraiment pas le problème. Il faut, moi, encore une fois, j'ai une vision peut-être un peu fataliste, mais ça fait 10 ans que je couvre la NFL, que j'ai vu des franchises déménager, bouger, machin et tout. C'est un business, il faut pas se mentir. La NFL, elle ira à Londres quand elle jugera que ce sera profitable d'un point de vue financier. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Je pense que c'est vraiment une histoire de pognon. Et vraiment, les voyages, les décalages horaires, etc., c'est pareil, ça revient tout le temps. Quand vous faites un New York-Los Angeles, il y a quoi? Il y a 4-5 heures de vol minimum. Il y a 4-5 heures de vol, il y a 4 heures de décalage horaire. Si vous faites un Boston-Londres, il y a 6 heures de vol et il y a 6-7 heures de décalage horaire. On ne parle pas de déménager de Los Angeles Chargers et de les laisser dans leur division s'ils vont à Londres. On parle de réaligner les divisions dans ce cas-là, et donc de les mettre avec des équipes de la côte Est. Évidemment qu'on ne va pas les envoyer à Los Angeles toutes les semaines, ce serait délirant. Mais honnêtement, honnêtement, voilà, tout ça, c'est réglable à partir du moment où il y a de l'argent à se faire. Voilà, c'est tout. La NFL marche aussi simplement que ça. Je vais prendre un exemple très concret, hein. Jusqu'à cette année, les visières, les visières teintées étaient interdites en NFL. La NFL a trouvé un deal avec Oakley, les visières teintées sont autorisées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, la NFL est là pour faire de l'argent. Donc honnêtement, voilà, Eugenio dit 4 matchs en Europe, 2 matchs, 4 matchs au State. Ça peut être même 2-2. C'est-à-dire que tu pars 2 semaines, tu reviens 2 semaines, tu pars 2 semaines, tu reviens 2 semaines. Quand on voit que là, les Buccaneers reviennent de 4 matchs à l'extérieur, quand on voit que les Raiders sont faits je ne sais plus combien de semaines loin d'Oakland, ils avaient des joueurs qui avaient... Avant le match là à Auckland, ils avaient des joueurs qui étaient arrivés dans l'équipe en septembre ou en octobre et qui n'avaient jamais joué à Auckland. Donc honnêtement, c'est pas infaisable, c'est pas infaisable. Après à court terme, ça me paraît compliqué. Mais moi je suis le premier à le souhaiter. Je suis le premier à le souhaiter. Je trouve que ce serait génial d'avoir une franchise à côté de chez nous quoi. Parce que dans les faits, c'est à côté de chez nous pour tous les Européens, quoi. Franchement, il n'y a pas besoin d'être à Paris ou il y a des avions qui vont à Londres de plein d'endroits, quoi. Donc franchement, voilà. Moi, je suis pour. C'était la partie européenne. On va passer un petit peu au thème de la semaine. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que là, on a du très très lourd dans le thème de la semaine. Je vais vous dire. On est. Et puis voilà. Alors, il y a Nicolas qui dit niveau ambiance, ce sera mieux que le stade de 30 000 places rempli de visiteurs. Ça, c'est sûr. Alors, Baptiste, les joueurs ne sont peut-être pas d'accord pour aller vivre dans un autre pays 6 mois de l'année et être loin de leur famille. Alors, si je peux me permettre, quand on est payé 10 000, entre 1 et 10 millions de dollars par an, selon les joueurs, on accepte pas mal de choses et les familles, ça se déplace. Voilà, c'est pareil. Je veux dire, le principe de la draft en lui-même fait que les mecs choisissent pas où ils jouent. Déjà, de base, est-ce que les gars ont forcément, quand ils viennent de Californie, ils ont grandi, est-ce qu'ils ont envie d'aller dans le Wisconsin? Franchement, il y a des mecs qui se préféreraient sûrement être à Londres que d'être dans le Wisconsin ou d'être, je sais pas dans quelle ville, je veux pas dire du mal de certaines villes, mais Cincinnati, non, je déconne, je plaisante, je n'ai jamais mis les pieds à Cincinnati. Non mais voilà, pourquoi ils auraient forcément plus, enfin pourquoi ils auraient forcément moins envie d'aller à Londres que dans certaines villes américaines? Londres, c'est une super ville dans les faits, et c'est anglophone, donc c'est même pas comme si voilà. Donc franchement, ouais, enfin Nicolas dit Cleveland, j'y suis pas allé, mais oui, a priori. Hein, Londres, c'est sympa à Londres quand même, franchement. On bouffe bien, y a de l'architecture, il y a de l'histoire. Franchement, vivre 6 mois par an à Londres, ça me paraît pas insurmontable quoi, quand t'es joueur NFL. Donc, il pleut tout le temps à Londres. Bah, Seattle aussi. Seattle aussi, les gars. Donc franchement. Londres, c'est un peu mieux que Jacksonville, dit Gino Del Barrio. Bon, là, tu prêches un convaincu, moi, j'aime pas la chaleur. Gwenaël, oui, mais le Hall of Fame est en Ohio. Ouais, non, mais franchement, je sais pas si les mecs, ils sont heureux d'être en Ohio juste parce qu'il y a le Hall of Fame à Canton, pas loin. Hein. Donc, oui, alors, Tony, Londres, on bouffe bien. Faut pas avoir de clichés sur la bouffe anglaise. C'est parce qu'il n'y a pas que la bouffe anglaise déjà à Londres. C'est une ville où il y a tout, quoi. Donc franchement, non, moi j'aime bien Londres, donc je suis pas neutre. Les busts, les plus gros busts. Alors, petit principe de raisonnement, je vais vous expliquer ce qui allait se passer. À la base, je m'étais dit, je vais faire un top 5. Et en fait, il y en a tellement que je vais essayer d'en faire un peu plus. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, j'en ai 20. Bon, c'est. C'est beaucoup, mais je vais essayer de résumer un petit peu. Donc, ce que je vais vous dire, pour les busts, en fait, j'ai fait par groupe. J'ai pas classé, j'ai pas dit un tel est le plus gros bust, etc. J'ai essayé de classer un petit peu les profils de busts. Voilà. Et j'ai surtout aussi... Alors, il y en a sur lesquels on va aller vite, c'est-à-dire les très connus. Je pense qu'on n'a pas besoin. Au pire, vous tapez leur nom dans Google, vous verrez, il y a plein d'infos, plein de vidéos, de machin. Mais honnêtement, et ben voilà, il y a Val qui dit « Akili Smith, bust trop souvent oublié, on pense à toi, frère. » Et ben voilà, j'avais envie de creuser quelques petits busts un petit peu plus savoureux, un petit peu plus méconnus. Donc, le premier groupe, c'est les superstars. Les super busts, les superstars du bust. En 1, je pense que c'est le bust of all bust, si on peut dire ça comme ça. C'est, alors, très bonne question de Sergio 1248. Sergio, c'est quoi un bust? Très bonne remarque, il faut définir avant, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément que entre initiés. Un bust, c'est un joueur sélectionné à la draft, très haut, la plupart du temps, et qui n'a pas du tout répondu aux attentes, qui a été un échec cuisant, voire total, voire atomique, à peu près. Et tu vas vite le comprendre avec les exemples, Sergio. On a du très bon. Donc, je le disais, la superstar des busts, c'est Ryan Leaf. C'est celui qui est un peu... il y aurait sa photo à côté du mot dans le dictionnaire, probablement. Ryan Leaf, sélectionné par le Los Angeles Chargers, deuxième choix en 1998, juste derrière Peyton Manning. À l'époque, on se demande, est-ce qu'il serait meilleur... Alors, attention, hein, je parle que de busts de draft. Je vois Gigino Del Barrio qui dit Ocho Cinco aux Patriots. Ocho Cinco, c'est pas du tout un bust, c'est un grand joueur. Après, il y a des joueurs avec qui ça est moins collé en fin de saison ou en fin de carrière. Donc, combien de temps pour considérer un joueur comme un bust? Bon, tu vas voir, Nicolas, on a des exemples assez clairs. En général, ils sortent vite de la ligue. Parce que là, on est sur du très très lourd. Ryan Leaf. Donc, à l'époque, on se demande s'il pourrait être l'égal de Peyton Manning, voire meilleur. Il est sélectionné en deuxième en 98 par les Chargers. Bilan comme titulaire, 4 victoires, 17 défaites. 14 touchdowns, 36 interceptions, jamais plus de 51% de passes complétées sur une saison. Problème de drogue, d'addiction, de coups de sang. Il y a une vidéo où il s'énerve contre un journaliste dans le vestiaire qui est assez connu aussi. Je vous y réfère un peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, donc Ryan Leaf, catastrophe sur le terrain, sorti très vite de la ligue. Problème d'addiction, là, c'est évidemment pas du tout drôle. On sort du cadre, on rentre dans le cadre personnel et évidemment, on souhaite ça à personne. C'est une belle histoire parce qu'il s'est repris en main après. Il s'est posé dans sa vie, il est plus heureux maintenant. Je crois même qu'il est allé en prison hein, après sa carrière, si je dis pas de bêtises, avec des histoires de drogue. Mais voilà, Ryan Leaf, il a tout parce qu'il y a les mauvais résultats, il y a le coup de sang, il y a l'addiction, et il y a en plus le fait qu'il était comparé à Peyton Manning, qui était sélectionné la même année. Donc ça, franchement, c'était très compliqué. Alors, j'ai pas mis Johnny Manziel. Si, je l'ai mis dans les mentions de Johnny Manziel. Si, je l'ai mis. Mais parce que je vois Baptiste qui dit que c'est à cause du coaching staff des Browns. C'est pas le coaching staff des Browns qui l'a forcé à picoler, à sortir, à faire n'importe quoi. Je veux pas être méchant, mais a priori, il a eu besoin de personne pour foutre en l'air sa carrière, Johnny Manziel. Jamarcus Russell, donc, c'était la grande star. Aussi, alors, c'est un bust. Il y a des images de son surpoids énorme. Évidemment, à la fin, il ressemblait plus à un lineman qu'à un quarterback. Jamarcus Russell, c'est un bust. Pourquoi ? Parce que ça a été un phénomène de foire, en fait. C'est le numéro 1 de la draft en 2007 par les Raiders. Et c'est une sorte de buzz énorme qui monte avant la draft. Je m'en rappelle parce que c'est une des premières drafts que je suis. Et donc, en fait, Jamarcus Russell, il lance des missiles. Il fait un pro day où il lance des missiles. Voilà, c'est 50 yards, comme ça, 60, bam, bam, bam. Voilà, c'est un phénomène physique. Il sort de LSU. Alors, il a pas fait une énorme, énorme carrière universitaire, si je me rappelle bien. Mais c'est un phénomène physique. Et en fait, ce qui rend le Jamarcus Russell un bust aussi, il faut le rappeler quand même, il signe un contrat à 61 millions de dollars, dont 32 millions garantis, parce qu'à l'époque, les contrats des rookies ne sont pas encadrés comme ils le sont maintenant. Je pense que c'est un peu grâce à lui qu'ils le sont aussi. Donc, il arrive en NFL, il a une mauvaise carrière. Il termine à 18 touchdowns pour 23 interceptions, 65.2 d'évaluation en carrière. Alors, évidemment, en termes de... Non, mais là, vous êtes dur. Par exemple, quand vous citez des Marcus Mariota, des Baker Mayfield, on est très loin de ce qu'on produit des Ryan Leaf ou des Jamarcus Russell encore, quoi. Vous êtes super dur. Là, c'est... Là...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On parle de Marcus Mariota, ça va être un remplaçant honnête. Baker Mayfield, c'est encore loin d'être un bust, c'est beaucoup trop tôt. Vous êtes très très dur. Josh Rosen, ça peut s'en approcher par exemple. Trubisky, ça peut s'en approcher. Donc, Jamarcus Russell, je le disais, 7 victoires, 18 défaites en tant que titulaire, 18 touchdowns, 23 interceptions et 65 déballes en carrière. Courbe de poids, tout à fait comme ça. Il a une bonne saison en 2008. Alors, bonne, entre guillemets. En 2008, ils sont à 5 victoires, 10 défaites. Il est à 13 touchdowns, 8 interceptions. Donc, c'est pas une catastrophe industrielle comme certains, mais voilà, c'était évidemment un gros problème, et enfin un vrai buzz. Je veux pas faire de mauvais jeu de mots et de jeu de mots méchants sur le physique, parce que c'est pas cool, mais voilà, Jamarcus Russell, c'est un buzz parce qu'il est sorti très vite de la ligue, il a jamais réussi à revenir, il avait des problèmes d'addiction aussi d'ailleurs, ceci explique cela aussi. Donc ça, c'est les deux superstars. Mais il faut pas oublier, et j'aime bien cette séquence parce que elle va vous faire comprendre pourquoi, quand tout le monde dit « Ah oui, il faut tanker, ah, faut avoir plein de choix de draft, ah, mais les Raiders, ils ont gagné parce qu'ils ont deux futurs premiers tours pour Khalil Mack, ah, là, quel autre joueur a été Jalen Ramsey, ah, ils ont un choix du premier tour, magique, etc. » Vous savez ce que c'est qu'un choix du premier tour? Donc ça peut être ça peut être Ryan Leaf, ça peut être Jamarcus Russell, mais ça peut être plein d'autres gars. Ça peut être aussi Akili Smith, quelqu'un l'a mentionné. Troisième choix par les Bengals en 99, 46,6% de passes complétées en carrière, 22 matchs au total, 22 matchs seulement, 3 victoires, 14 défaites en tant que titulaire. Is Schuller, troisième choix des Redskins en 1994, quarterback, 49,2% de passes complétées en carrière, 15 touchdowns, 33 interceptions, 127 yards de moyenne par match à la passe. Il n'a joué que 29 matchs. Il a réussi un match à 5 interceptions d'ailleurs. Petit clin d'œil. Ça aussi. Donc là, on est sur des troisièmes choix. Bengals 99, Redskins 94. Des catastrophes industrielles. Donc, encore une fois, je sais que j'ai pas forcément, je suis pas l'expert draft, etc. Mais c'est pour ça que j'appelle tout le temps la prudence quand on dit « Ouais, mais ils vont avoir le choix de la draft. Ils vont drafter tel quarterback qui est incroyable. » Bah ouais, mais des fois ça passe pas quoi. Rick Meyer, qui se rappelle de Rick Meyer? Pas grand monde. Rick Meyer, pourtant, c'était le deuxième choix des Seahawks en 1993. Eh bien, il a joué 80 matchs dans sa carrière pour 5 équipes différentes. Alors, quand on arrive à 5 équipes, déjà, c'est pas bon signe. Mais il est d'une régularité impressionnante dans la médiocrité. Alors, je vous le jure, je vais vous donner honnêtement, les saisons de Rick Meyer, elles me font rêver. Je vous donne le ratio touchdown-interception, d'accord ? Toutes les saisons de Rick Meyer. 12 touchdowns, 17 interceptions. 11 touchdowns, 7 interceptions. Il est une fois dans le positif. 13 touchdowns, 20 interceptions. 5 touchdowns, 12 interceptions. 0 touchdowns, 6 interceptions. 5 touchdowns, 9 interceptions. 1 touchdown, 0 interception. 3 touchdowns, 5 interceptions. Donc, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saisons, il en a 2 où il lance plus de touchdowns que d'interceptions. Rick Meyer, deuxième choix des Seahawks en 1993. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes dur avec Marcus Mariota, et pourtant je ne suis pas le plus grand fan, ou Baker Mayfield. C'est que on ne parle pas beaucoup des Akili Smith, des Heath Schuler, des Rick Meyer, mais tous ces mecs-là ont été choisis dans le top 3 de la draft. Donc les sauveurs, les oui, il faut tanker, etc. Attention, attention. Tim Couch, il a été mentionné. Alors attendez, je regarde un petit peu ce qui se dit. C'était une autre époque, à l'époque c'était commun. Oui, alors dans certaines proportions, faut quand même pas abuser. C'était pas commun dans les années 90 de lancer tout le temps plus d'interceptions que de touchdowns. Moi je veux bien qu'on les défende, mais c'est pas pour rien que Rick Meyer, il est sorti sur 5 équipes et qu'il a jamais été un titulaire solide. C'est pas pour rien que Heath Schuler n'a joué que 29 matchs en carrière, et c'est pas pour rien qu'Akili Smith en a joué que 22. Si ça avait été normal, ils auraient été conservés plus longtemps. C'est pas normal de lancer plus de touchdowns que d'interceptions, à aucun moment. Donc voilà, ça c'est, on peut pas les défendre comme ça. C'est des busts énormes. Tiens, la Con Treadwell, ouais. Mais là vous êtes dans le récent, je vous en prends quelques-uns. Le plus gros bust entre Winston et Mariota, dit Baptiste. Pif. C'est dur. Winston, les deux sont des busts pour moi. Tim Couch. Alors, Tim Couch, je suis pas hyper d'accord quand on le met dans les très hauts, parce que pour moi, par exemple, ceux que je viens de citer, Schuler, Meyer et Smith, c'est quand même des plus gros busts, on va pas se mentir. Donc, Tim Couch, au final, il emmène les Browns en playoff. Donc, rien que pour ça, on doit pas dire qu'il est un bust. Et il finit à 64 touchdowns pour 65 interceptions. C'est pas un bon joueur, mais c'est pas un bust énorme. Je trouve que c'est honnête, il a joué 5 saisons, ils vont en playoff une fois. Je défendrai Tim Couch un petit peu. Alors, je vous en cite quelques-uns de ces dernières années, juste pour... là, je ne vais pas dans le détail, mais rappelez-vous qu'un premier tour de draft, ça peut aussi être Paxton Lynch. Il est choisi autour du 20e, je crois, par les Broncos, récemment. Rien fait du tout. Matt Lennard, 10e choix en 2006, qui ne fait rien avec les Cardinals. Joe Harrington, 3e choix, Lions, 2002. Pareil, catastrophe, ou très peu de rendement. André Ware, 7e choix, Lions 1990, pas grand-chose. Et Johnny Manziel, 22e choix, Browns 2014. Il y a CC qui dit, dans ce cas-là, Trubisky n'est pas un bust, il est en playoff. Oui, mais je parlais des Browns. Hein. Amener des Browns en playoff, pas les Bears. Les Browns. Et les Browns, c'est compliqué. Tarz Velder qui dit, un bust est d'abord un quarterback. Alors, tiens, j'ai oublié Blake Bortles. Merci Nicolas Olivier. Ouais, on va dire Bortles, c'est pas un... Et pourtant, je suis pas fan. Hein. C'est pas un bust énorme, c'est juste pas un bon joueur. C'est un remplaçant honnête, on va dire. Ah, Christian Hackenberg. J'ai pas mentionné, tiens. Christian Hackenberg. Si je commence à mentionner tous les busts des Jets, on peut parler de Jimmy Liner, on peut parler de... On va plus s'arrêter. Donc, Tarz Velder qui dit un bust est d'abord un quarterback. Voilà pourquoi, justement, on arrête avec les quarterbacks et je voulais vous en parler de quelques autres. Blaine Gabbert, oui, c'est vrai. Non, mais voilà. Alors, j'aime bien parce que je pensais en avoir me perdre et avoir essayé de synthétiser. Mais vous voyez le nombre qu'il y a et pourquoi je préfère échanger Moi, l'échange Ramsey contre Jalen Ramsey contre un premier tour, mais donnez-moi Ramsey tous les jours. Donnez-moi Khalil Mack tous les jours contre un premier tour de draft. Parce que c'est une loterie la draft au bout d'un moment. Vous voyez tous les noms qu'on arrive à citer, et on remonte pas loin, hein. Trent Richardson, Greg Robinson, Brady Quinn, Brady Quinn, le choix des Browns au premier tour, qui avait été un truc, Brandon Whedon. Voilà. Il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, pour chaque Manning que vous attendez à la draft qui doit soi-disant sauver votre franchise, derrière, eh ben, il y a un Vince Young, ou il y a un Tim Couch, ou il y a un Akili Smith. Voilà. Alors, peut-être pas dans les proportions d'Akili Smith, mais honnêtement, pour tous les Peyton Manning qu'on attend, pour tous les Tom Brady, il y a un Joe Harrington, un Paxton Lynch, un Johnny Manziel, un André Ware. Jared Goff, non, il n'est pas un bust. Il fait une très très bonne saison l'an dernier. C'est peut-être un quarterback de système un peu limité, mais c'est pas un bust. Donc, je disais, alto quarterback, parlons des autres. Trent Richardson, pardon, est très souvent cité. C'est le troisième choix des Browns en 2012. Alors, on oublie souvent que sa première saison est plutôt bonne. Il est à 950 yards au sol, ce qui est quand même loin d'être malhonnête pour un coureur. Mais tout s'arrête l'année suivante. Il joue deux matchs à Cleveland. Il est envoyé à Indianapolis contre un choix du premier tour. 14 matchs à Indianapolis. Il joue une année de plus à Indianapolis, plus rien. 3,3 yards par course. Pff, carrière finie. Donc là-dessus, du coup, c'est un bust, en effet. Charles Rogers, alors Trent Richardson et Charles Rogers, j'ai fait une petite catégorie, je vais appeler ça les playmakers. Charles Rogers, receveur pour les Lions, alors il n'a pas été aidé par les blessures. J'ai pas mis par exemple Robert Griffin parce que je pense que c'est les blessures qui l'ont eu. C'est pas, il fait un début de carrière tellement fou, il est rookie de l'année, tu peux pas dire que c'est un bust après sa première année et derrière il se fait atomiser par les blessures. Charles Rogers, receveur sélectionné par les Lions, deuxième choix de la draft 2003, deuxième choix pour un receveur. 22 réceptions, 243 yards, 4 touchdowns. Et ça, c'est pas les stats sur une semaine ou deux. Hein. 22 réceptions, 243 yards, 4 touchdowns. C'est ses stats en 3 saisons et 15 matchs. Il a joué 15 matchs en tout sur 3 saisons. Beaucoup de problèmes de substance aussi, d'abus de substance. Charles Rogers, énorme, énorme bust aussi. Il y a eu un moment où les Lions n'étaient pas en verve hein, sur les receveurs avant de tomber sur Calvin Johnson. Autre catégorie, les phénomènes. Alors, j'ai vu les noms passer. Les phénomènes, presque phénomènes de foi. Deuxième choix des Packers en 1989, Tony Mandarich. Oui, alors il y a Nicolas qui dit, il avait qui comme quarterback? C'est vrai qu'ils n'étaient pas gâtés au niveau des quarterbacks non plus, les Lions, à ce moment-là. Mais après, c'est pas tout à fait la faute du quarterback s'il ne joue que 22 matchs non plus. Rosen bust ou pas, bah, il faut lui laisser encore un peu de temps, je suppose. Mais ça en prend le chemin. Tony Mandarich, donc je disais, deuxième choix des Packers en 89, lineman gigantesque, monstrueux physiquement. Parce que gavé de stéroïdes, mais à l'époque on ne le dit pas. Drafté par les Packers, problème d'addiction. Il est hors de la ligue après 3 ans et des années pas productives. Il revient 5 ans plus tard, titulaire honnête pour les Colts. En fait, c'est plutôt une belle histoire, parce que justement, il est revenu avec les Colts une fois qu'il avait fait le ménage au niveau de sa vie, et notamment des problèmes d'addiction. Donc voilà. Mais Tony Mandarich est un bust à ce moment-là parce qu'il est censé révolutionner le poste de lineman, quoi. Il arrive, il est bodybuildé, il est énorme. Donc voilà. Il est censé révolutionner ça. Là, c'est un phénomène. Autre phénomène, Brian Bosworth. Premier tour des Seahawks en 1987. Premier tour de la draft supplémentaire. Alors lui, c'est un bust parce que c'est fin des années 80, hein, on est un peu époque bling-bling, tout ça, tout ça. Donc Brian Bosworth, il a le bandeau, il a le machin. Il envoie une lettre à toutes les équipes en disant « me draftez pas » parce qu'il veut aller aux Raiders. Bon, les Seahawks, ils s'en foutent, ils le draftent quand même. Au passage, il est considéré comme un bust, Brian Bosworth, pourquoi? 10 ans de contrat, à l'époque c'est pareil, hein, les contrats rookies sont pas réglementés. 10 ans de contrat, 11 millions de dollars, plus gros contrat rookie à l'époque. Au final, il prend sa retraite après 24 matchs à cause d'une blessure à l'épaule. Et le plus gros highlight qu'il laisse, c'est qu'il se fait démonter par Bo Jackson sur qui le renverse en allant dans la end zone. Et c'est le souvenir que laisse Brian Bosworth. Alors, autre catégorie, j'en ai 3 autres. On va accélérer un peu, il est déjà 18h42, mais je sais que vous aimez bien ce sujet. Les défenseurs. Parce qu'on ne parle pas souvent des défenseurs, mais alors il y en a eu quelques beaux, et ceux-là, je les ai en tête. Pourquoi? Parce que c'est sur la période où existe le site. En 2008, il y a un mec qui arrive qui s'appelle Vernon Golston. Alors, vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais les supporters des Jets, eux, s'en rappellent. Vernon Golston, sixième choix de la draft en 2008 par les Jets, Machino combine 4,58 aux 40 yards, développé, 37 répétitions au développé couché, c'est un record à l'époque. Il est à fond, c'est un phénomène physique, il doit révolutionner le poste de pass rusher, c'est un monstre, etc. Résultat, 3 saisons, 0 sac. 0,0, 0 fumble forcé. Et au bout de 3 saisons, il est hors de la ligue. C'était un 6e choix, donc c'est quand même un sacré bust. On parle moins des busts défensifs, j'ai l'impression. Autre bust. Et encore une fois, celui-là, je m'en rappelle parce qu'à l'époque, pareil, il s'appelle Aaron Curry, nous sommes en 2009, et c'est censé être un choix sûr. Aaron Curry, c'est un défenseur complet, c'est un linebacker, c'est un joueur incroyable, etc. Lui, il réussit 5,5 sacs, mais en 3 saisons, ce qui est quand même pas énorme, et surtout, il est hors de la NFL après 4 saisons, alors que Aaron Curry, à l'époque, je m'en souviens, était présenté, mais comme un super linebacker ultra complet, etc. Finalement, ils ont eu Bobby Wagner un peu plus tard. Ils s'y attendaient moins. Il était moins hypé. Et puis, 2013, autre phénomène physique, défenseur qui devait révolutionner son poste. Il avait la rapidité. Il était incroyable. C'était une sorte de mutant hybride. Il allait aller vite. Il allait être pass rusher, etc. Dion Jordan, sélectionné en 3e position en 2013 par les Dolphins. Il vient d'être signé par les Raiders, mais il est toujours suspendu. Il a réussi 8,5 sacs en 6 ans. Ce qui est quand même pas tout à fait le rythme qu'on attend d'un joueur du troisième position de la draft. Et puis il s'est fait attraper 3 fois pour dopage déjà. Ça, c'est un petit problème. Et encore une fois, Dion Jordan, il y avait une vraie hype autour. Quoi. Il arrivait d'Oregon, il était censé révolutionner le poste, être rapide, etc. Bon. Les spécialistes, petite note évidemment pour Roberto Aguayo, on peut être un bust quand on est choisi au deuxième tour parce qu'il suffit d'être kicker. Kicker choisi au deuxième tour, c'est très 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 haut, beaucoup trop haut. Et c'est les Buccaneers qui ont fait cette erreur-là avec Roberto Aguayo. On rappelle, les Raiders ont sélectionné un kicker en 10e position de la draft, mais c'est l'exception, quoi. Ils ont vraiment, vraiment réussi. Il y a Camille Sarah Ben que je salue, tiens, qui est sur le chat, qui dit la ligne de linebacker qui devait nous sauver, Aaron Curry plus Tatupu. Oui, Tatupu était balèze. Roberto Aguayo, évidemment, kicker au deuxième tour, une seule saison titulaire avec les Buccaneers, un échec total. Et puis, vous avez été plusieurs à mentionner Eric Flowers, je ne l'avais pas mis, mais Eric Flowers, il rentre en effet dans cette catégorie des busts discrets. J'aime bien dire pour moi, c'est les busts discrets, c'est les linemen. Parce que forcément, c'est pas quantifié en statistiques, donc on en parle peu. C'est des hommes de l'ombre. Et finalement, voilà, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il y a quand même des sacrés busts. Et souvent, en plus, les linemen étaient quand même, sont souvent présentés comme des paris sûrs. Souvent, quand il y a des drafts avec des quarterbacks un peu incertains, on dit oui, mais il y a tel lineman, il est sûr, c'est un choix sûr, etc. Demandez aux Rams qui ont sélectionné Jason Smith en 2e position de la draft 2009. Demandez aux Rams qui ont sélectionné Greg Robinson en 2e position de la draft 2014. Oui, il y a un motif d'action. Donc voilà, les linemen offensifs quand même peuvent être des busts aussi. Je vous l'ai dit, Jason Smith. Alors Greg Robinson, je suis dur parce qu'il est titulaire à Cleveland, mais il était 2e choix, il était censé être le left tackle du futur des Rams, il ne l'a pas été. Et il y a quelques tackles comme ça qui arrivent aussi de temps en temps. Voilà pour les plus gros busts pour moi. En tout cas, j'essaie de faire un petit panorama des busts NFL. Je pense qu'on est pas mal. Il y en a quelques-uns, évidemment, j'en oublie. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est encore une fois, c'est une manière de faire ma promo et de faire la promo de ma philosophie, qui est de dire prenez les joueurs plutôt que les choix de draft quand vous avez l'occasion. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup. J'ai essayé d'éviter, j'en vois beaucoup qui sont mentionnés. J'ai essayé d'éviter ceux qui ont été tués par les blessures, surtout. Là, j'ai essayé de me concentrer sur ce qui était talent. Et après, quand leur attitude les a sortis de la ligue, évidemment. Mais je vois la question se pose pas mal sur Josh Gordon. Josh Gordon, il sort de la ligue à cause de ses problèmes d'addiction. C'est presque une maladie, donc c'est aussi dur de lui en vouloir, et quand il est sur le terrain, il est productif, donc c'est dur, quoi. C'est assez dur. Y a des cas très compliqués, hein, comme ça, évidemment. Je vois passer des Amir Abdullah, je vois passer Vince Young, je vois passer... Vince Young, c'est pareil, il y a une saison ou deux où il est bon, quoi. Sans être exceptionnel, mais il y a une saison ou deux où il est pas mauvais, quoi. Donc, voilà. Il y a Philippe qui dit tu peux avoir 10 premiers tours que des Macs, tu n'en trouves pas tous les ans, voire rarement. Oui, des Khalil Mac, en effet, on en trouve rarement. Et après, oui, je vois passer quelques noms de mecs qui ont été draftés récemment. Là, après, il y en a quelques-uns. Là, ils sont quand même assez. Faut du temps. Il y a Tim Tebow qui est mentionné par Gus aussi. Oui, Tim Tebow, au final, est un bust. Bon, il va en playoff, il gagne un match, mais c'était un quarterback quand même très, très, très imprécis et très, très. Enfin, là, pour le coup, quand Peyton Manning lui est tombé sur les genoux, John Elway, il était heureux de s'en débarrasser de Tim Tebow. Après, il est drafté trop haut et c'est Josh McDaniels qui c'était un projet d'orgueil un peu, quoi. Combien de busts ont été vendus comme future star par Grégory, dit Thierry? Alors après, je n'ai pas du tout la pierre, ça fait partie du jeu. Je veux dire, nous, moi-même, je dis des bêtises. Si vous réécoutez cette émission le lendemain, je dis des bêtises sur les matchs qui vont avoir lieu le soir. Enfin, voilà, il y a quand même. Et c'est vrai que GB le dit très bien, Grégory est quelqu'un de très modéré, donc en général, il n'est pas non plus. Il survend rarement quand même les mecs, les gars. Il est toujours dans la nuance. Niveau joueur survendu, hop hop, Fisher Mahomes, l'anti-bust Tom Brady évidemment. Question de Frogs Corner. Oui. Et je vous renvoie, tiens, on a des papiers qui est d'une série qui s'appelle Undrafted sur le site et qui vous propose des joueurs, non draftés. Il y avait l'histoire de Tony Romo en parlant de quarterback. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour les plus gros busts, c'était le thème de la journée, les 18h49, nous sommes à 11 minutes des matchs. Nous allons donc parler quand même assez rapidement des affiches. Je vais vous donner les pronostics. Alors attention, c'est l'heure des pronos et je cherche bêtement mon tableau. Donc, les matchs de ce soir, Chicago reçoit Détroit sans Matt Stafford. C'est l'info qui est tombée il y a quelques heures. Matt Stafford blessé au dos, il aurait même quelques fractures, il pourrait même manquer plusieurs matchs. Donc là, ça rééquilibre tout parce que blessure de Matt Stafford. Moi, j'avais plutôt foi dans cette équipe de Détroit pour ce match. Maintenant, sans Stafford, c'est compliqué. Face à une très bonne défense, Jeff Driscoll, pour voir ce que ça va donner. Il s'était défendu avec Cincinnati l'an dernier, mais ça reste quand même bien en dessous. J'avais pas regardé, tiens, hop là. Non. Je disais. Excusez-moi, je m'embrouille. Oui, il faudra faire le classement des plus gros styles, dit Gwenaël. C'est vrai. Est-ce que Philippe Lindsay sera dans les zones draftées? Il faudra voir avec Axel qui écrit les papiers. Il a carte blanche. Cincinnati, Baltimore, justement, avec les nouveaux de Ryan, les débuts de Ryan Lindley au poste de quarterback pour Cincinnati. Donc, j'ai pas donné le pronostic pour Chicago-Détroit, mais j'ai dit Détroit dans le podcast. Je vais dire Chicago à domicile maintenant avec la blessure de Stafford. Cincinnati, Baltimore, je disais. Ryan Lindley face à Baltimore, honnêtement, ça s'annonce ultra compliqué. Les Bengals devraient se faire ouvrir au sol, plutôt Baltimore. Cleveland, Buffalo, intéressant celui-là. On attend toujours que les Bills nous fassent mentir et qu'ils justifient quand on dit ah, ils n'ont pas une attaque qui est très bonne, etc. Et on attend que les Browns nous donnent raison en étant un peu bon pour une fois. Donc, ça peut être un match surprise si les deux équipes arrivent à inverser la tendance. En mal pour les Bills, en bien pour les Browns. Et ça peut être un match tout à fait gagné par les Bills, si tout le monde respecte ce qu'il fait depuis le début de la saison. Donc je crois que j'ai pronostiqué les Bills. Tennessee contre les Chiefs, retour de Patrick Mahomes. Évidemment, ça fait de Kansas City le favori. Les Saints contre les Falcons avec le retour de Matt Ryan. Évidemment, ça fait que les Falcons ne sont toujours pas favoris et que les Saints, pour moi, vont l'emporter. Quelqu'un a dit un mot méchant pour le derby de New York tout à l'heure. Donc, Jets-Giants au MetLife Stadium. Et je dis Giants, mais c'est vraiment parce qu'il faut dire quelqu'un, quoi. C'est vraiment, vraiment. Ah, Finley, pardon, pas Lindley, autant pour moi. Je confonds tous les quarterbacks. Tous ceux qui arrivent en ce moment-là. J'ai du mal. Finley, Lindley, etc. Bon. Parce que Lindley, c'est un ancien. Ça, c'est l'âge plus le nombre d'années. C'est pas bon des fois. Donc, je disais, le Big Apple Low, comment on va dire le derby de New York? Bref, donc Giants, parce qu'ils sont plus organisés, que c'est moins le naufrage. Buccaneers, Cardinals, l'équipe qui perd le moins de ballons, les Cardinals, contre une équipe qui en perd des camions, les Buccaneers. Donc, en général, je parie sur celle qui perd le moins de ballons, donc je dirais les Cardinals. Les Colts de Indianapolis contre les Dolphins. On va dire les Colts, même sans Jacoby Brissett avec Brian Hoyer. Green Bay Carolina, pardon, celui-là il est hyper intéressant, il est à 22h. et on va dire Green Bay à domicile, mais attention au jeu au sol évidemment de Carolina et à Christian McCaffrey l'incroyable. Pittsburgh, Los Angeles, sans James Conner pour Pittsburgh, en théorie ça devrait passer pour Los Angeles qui a quand même plus d'armes. Dallas, Minnesota, c'est le match de la nuit, il est très incertain. J'ai mis Minnesota, je crois, dans le fauteuil, mais ça va être difficile. Ça va être un match très serré, en tout cas. Et puis, l'affiche du lundi, on l'a fait brièvement en général, mais là, San Francisco-Seattle, le plus beau match de la semaine, il a lieu la nuit prochaine. C'est dommage, parce que c'est férié demain, sinon vous auriez pu faire la nuit blanche et regarder ce match San Francisco-Seattle, mais là, malheureusement, il est dans la nuit, et ça retravaille mardi, ça c'est dommage, mais c'est le match à ne pas rater. Donc voilà pour les affiches, je vois que ça spécule sur mon âge. Dans le chat, combien vous me donnez? Alors, attendez, je remets mes trois cheveux là devant. Plein. Je peigne bien ma barbe. 100 ans, dit Joe Bébé. 42, dit Camille. 44, dit Gus. 38, dit Kelvin. 32, 33 max. 34, 40, 45. Eh, vous êtes sérieux ceux qui disent plus de 40? Ah ouais, vous êtes dur. Ouais, j'ai moins de 45. Ouais, quand même, ça se voit encore un peu, non? 18, merci Laurent. Merci Laurent, envoie ton adresse. Merci Laurent, envoie ton adresse, on va envoyer un cadeau. Ah, il y en a qui ont la date, il y en a qui sont renseignés là, il y en a qui ont l'année. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Bah ouais, t'as pas plus de 40 ans. Bah non, j'ai pas plus de 40 ans. Vous êtes durs quand même. La trentaine, 34, sans la mèche, la quarantaine. Voilà. Bon, les nuits blanches, ouais, les nuits blanches NFL, ça. J'ai. Il y a des périodes à la fin de l'année, j'ai des cernes tellement grosses, quand je croise François Fillon, il m'appelle papa. Hein, mais sinon non. 37, 34. Non, mais vous pensez vraiment que j'ai plus de 40 ans? Ouah, c'est dur quand même. C'est dur. Bon, non, j'ai 34 ans. J'ai même pas 34 ans en plus. J'ai 33 ans, pour la petite histoire. Hop là. 34 piges, il faut y aller moulant en soirée. Alors, je sors très peu. Hein, j'ai une vie monacale. Et c'est pas faux, mais c'est les nuits blanches. Depuis 10 ans, je travaille soit sur la NBA, soit sur la NFL, alors forcément, j'ai toujours une tête décalquée. Donc oui, 33, hein. Je suis majeur, 33. Je vous donnerai la date de mon anniversaire pour si vous voulez envoyer des trucs, c'est bientôt. Il a pris le nuage de Tchernobyl, non, c'est juste après ma naissance, hein. Attention. Donc, il est 18h55. Hop, les pronostics avec Unibet. Et après, je vous donne le dernier indice pour le joueur mystère. Restez bien à l'antenne et on fait quelques questions. Donc, les cotes. Les Falcons sont à 5-10 si vous voulez être foufou. Allez, il y a. Alors, la cote des Lions a gonflé parce que Matt Stafford absent. Donc, la cote est passée à 3. Moi, je vais dire que j'ai assez manqué de respect à cette équipe pendant tout le début de l'année. Cette année, ce soir, je vais croire en eux, comme ça ils pourront me décevoir. Les Bills sont à 2-20 contre les Browns. Avec leur défense, ça peut le faire. Donc les Bills à 2-20 contre les Browns. Autre équipe que j'aime bien sur ces pronostics, il y a des cotes intéressantes. Il va être un petit peu osé. Hein, bon. Enfin, il va être haut. Il y a des bonnes cotes. Donc il n'est pas impossible à passer. Mais c'est des belles cotes. Donc ça peut faire un beau combiné. Les Cardinals sont à 2,70 de cote. Et donc, si James Winston allume la machine à turnover, eh ben, ça peut faire quand même un sacré grabuge du côté d'Arizona parce qu'eux, ils perdent peu de ballons. Donc, je vais dire les Cardinals à 2,70. Et je vais compléter avec un petit mot sur la grosse affiche de la soirée. Oh là là, j'écris mal. Les Vikings à 2,30. Les Vikings sont à 2,30 à Dallas. Mais, alors, il manque Adam Thielen. Mais honnêtement, c'est vraiment une belle cote pour un match aussi incertain. Les Cowboys sont à 1,45. Donc, autant prendre les Vikings à 2,30. Et je vais vous dire le combiné. Il est plutôt pas mal. Pour 5 euros misés, vous avez. Hop là, je vous le dis. Comme ça, 68,31 € de gains potentiels avec ces trois cotes. Et puis sinon, n'hésitez pas à les jouer séparément parce que franchement, ces trois cotes-là sont plutôt sympathiques chez Unibet. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je jette un œil, tiens, sur le Cowboys Vikings, sur les marqueurs de touchdown. histoire de qui marquera. Alors n'oubliez pas, vous pouvez pronostiquer qui marquera deux touchdowns, mais qui marquera un touchdown. Vous avez des cotes pas mal. Ezekiel Elliott 1,47 et Dalvin Cook 1,58. C'est pas des énormes cotes, mais c'est des joueurs qui, a priori, dans ce match-là, devraient y aller, quoi. Donc Ezekiel Elliott 1,47 et Dalvin Cook 1,58. Les Colts à plus de 200 yards au sol, c'est possible, Jimmy Bat. Ouais, contre les Dolphins, c'est pas impossible en tout cas. Ça me paraît pas impossible. Donc franchement, c'est pas mal. Les Vikings sont sentis, Hélène, ouais, Cédric. Ça, c'est sûr. Après, Cousins a déjà fait des trucs avec Stephon Diggs, avec Kyle Rudolph. Donc ça me semble pas infaisable. Voilà pour les meilleurs codes de notre partenaire Unibet. Je vous le rappelle, partenaire de cette émission du dimanche. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vous remets, tiens, le lien une petite dernière fois. Franchement, hop, allez-y. Comme ça, vous pouvez, si vous utilisez ce lien, ils savent que vous venez de notre part. Et puis surtout, n'hésitez pas, encore une fois, vous avez du streaming en créditant juste le compte, donc ça vous permet de voir les matchs, c'est un super bon plan de cette année. L'indice pour le joueur mystère, californien au début et à la fin, c'était le premier, 24, c'était le deuxième, des bas-fonds au titre de champion, c'est le troisième indice, et le quatrième indice, champion et libre. C'est l'indice supplémentaire champion et libre. Je vous laisse répondre par mail concours@touchdownactu.com. Il y a 100 euros de freebet Unibet en jeu. N'hésitez pas à y aller, il est 18h59. Il va déjà être l'heure de se quitter. Alors, je vous l'ai dit, j'ai pas de fromage, je voulais pas la sortir. J'ai une pizza 4 fromages. Je suis feignasse ce soir, j'ai une pizza 4 fromages froide que je vais faire réchauffer. Et je vais mettre un peu de gorgonzola dessus. Voilà. C'est la touche. En fait, c'est le conseil fromage. J'en ai pas dans la main, mais le conseil fromage, c'est mettez du gorgonzola sur tout, c'est toujours meilleur. Voilà. C'est à peu près aussi simple que ça. Mais je vous promets, je vais être un peu plus sérieux sur les fromages la semaine prochaine. Général DX, c'est ce que je conseille, le red zone pour commencer ou un match seul. Je pense un match seul parce que j'ai essayé le red zone avec un ami et c'est vrai que ça va vite. Donc faut espérer que ce soit un bon match, mais c'est vrai que le red zone ça va vite. Donc match seul, et bah du coup n'hésite pas à aller sur Unibet. Pizza 5 fromage 10 Cédric. Désolé Jérémy, je suis désolé, t'as attendu une heure pour le fromage, promis, il y en aura deux la semaine prochaine. Mais bon, c'est la séquence, je raconte ma vie, mais je suis allé chez le dentiste hier et tout, donc je suis vraiment pas d'humeur à croquer dans du pain et dans des trucs et tout. Je suis un peu. Voilà, bon il est 19h, il y a toujours un peu de débours sur les matchs, donc je sais que je vous ai pas encore mis en retard, mais il est 19h, je vous remercie évidemment d'être là très chaleureusement, c'est toujours un plaisir d'être avec vous au cœur de l'hiver, ça fait toujours du bien de vous parler le dimanche, et ensuite c'est, oui quelqu'un avait parlé ? Ah oui, le fameux plombage, oui j'en ai parlé dans l'émission de jeudi, ouais c'était pas une blague, mais c'est bon, c'est réglé, ça va aller mieux, bonjour à mon dentiste, il me regarde, c'est le meilleur. Allez, en tout cas, merci à tous. Il est 19h. Je n'ai rien d'autre à dire. Là, quand je commence à raconter ma vie, c'est qu'il est l'heure de, partir. Il faut pas que je tombe là-dedans. Bon match à tous. Très très bonne soirée à tous. Très bon jour férié. D'ailleurs, profitez-en bien si vous l'avez. Et puis nous, on se retrouve mardi pour le débrief. Je crois que ce sera avec Raphaël et Grégory, si je ne dis pas de bêtises. Très bon match NFL à tous. À très bientôt sur tdactu.com. Ciao ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.